France Culture. Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
La condamnation et l'incarcération annoncée de Nicolas Sarkozy ravivent une vieille question française. Que révèle notre rapport à la corruption? Entre indignation, défense d'un ancien chef d'État et appel à la grâce présidentielle, les réactions traduisent moins un scandale isolé qu'un trouble profond dans la morale publique. La justice, la vertu, la confiance politique semblent parler des langues différentes. Alors pour comprendre cette bascule historique, nous recevons ce soir Frédéric Monnier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien de la corruption et vous voyez dans ces affaires un révélateur des valeurs et des contradictions de la démocratie française. Je signale la parution récente de votre ouvrage passionnant intitulé « Un pouvoir malhonnête, la corruption publique en France, 18e, 20e siècle ». C'est aux éditions Champvallon. Merci d'être venu ce soir dans Question du soir.
Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent.
La voix de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, quelques minutes après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Un ancien président dormira donc demain en prison pour un motif de droit commun. C'est une première dans l'histoire de la République. Frédéric Monnier, comment est-ce que vous analysez en tant qu'historien cette condamnation ?
Mais elle m'inspire plusieurs remarques, c'est vrai. La première, c'est l'expérience de la prison, de l'incarcération. Elle est inséparable de la vie politique française depuis le début du 19e siècle, voire avant, et au moins jusque en 1981, il existe une justice politique à plusieurs reprises. Je rappelle, puisque ses cendres ont été transférées au Panthéon, que c'est Robert Badinter qui abroge en 1981 cette juridiction politique, la Cour de sûreté de l'État. Donc l'histoire de la République, c'est aussi l'histoire de très nombreux prisonniers politiques, depuis des simples militants jusqu'aux anciens chefs de gouvernement. Alors j'ai là une pensée particulière pour Léon Blum, qui est incarcéré à la demande du maréchal Pétain à l'automne 1940. Il écrit dans une lettre à une amie proche « La prison manquait à mon expérience de la vie, et la Providence y a pourvu. » Ce qui se passe de nouveau, si vous voulez, n'est pas que d'anciens hommes d'État soient en prison. Ce qui se passe de nouveau, c'est qu'il le soit, vous l'avez dit, pour des motifs qui ne sont pas politiques, pour des faits d'atteinte à la probité. Et ça, c'est une tendance récente, très récente, dans notre histoire, puisqu'il faut, attendre les années 1980-1990 pour que le nombre d'hommes politiques condamnés pour corruption augmente jusqu'à atteindre des niveaux jamais observés auparavant. Et de ce fait, un certain nombre d'entre eux a été incarcéré. Évidemment, on pense à Patrick Balkany, qui est un proche de Nicolas Sarkozy. Les condamnations et l'incarcération de Nicolas Sarkozy s'inscrivent dans ce processus récent qui s'affirme depuis la deuxième moitié des années 1980, à peu près.
Je voudrais, Frédéric Monnier, vous soumettre deux chiffres. Selon un sondage Elabe, la décision de justice rendue au sujet de l'affaire libyenne est impartial pour 6 Français sur 10, une décision politisée, en revanche, pour 4 Français sur 10. Comment comprendre que cette incarcération, l'incarcération de Nicolas Sarkozy, choque tout de même une partie de l'opinion publique?
Alors, c'est une question compliquée. Il faut... Pour y apporter une réponse, mettre ce sondage en relation avec d'autres enquêtes d'opinion publique qui portent, elles, sur la perception ou sur la croyance en la corruption des élus, ministres, gouvernants. Au début et jusqu'à la fin des années 1970, seule une minorité de Français croit les gouvernants corrompus, moins de 40%. Depuis une douzaine d'années, donc depuis le début des années 2010, le pourcentage de Français qui pensent les hommes politiques corrompus oscille entre 2/3 et 3/4 des personnes interrogées. On n'est donc plus dans le même monde. De ce point de vue, quelque chose s'est produit entre la fin des années 1970 et aujourd'hui. Lorsque vous évoquez le chiffre de 6 Français sur 10 qui pensent cette peine juste, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces 2/3 de Français qui estiment que le personnel politique est corrompu.
Le PNF, le parquet national financier, avait décrit à l'audience, je cite, un pacte de corruption faustien avec un des dictateurs les plus infréquentables de ces 30 dernières années, voyant Nicolas Sarkozy le commanditaire de ce financement. Dans quel type de corruption sommes-nous là, Frédéric Monnier? C'est un type de corruption particulier puisqu'il concerne un champ bien spécifique de la vie politique française. Je veux parler des campagnes présidentielles.
La corruption telle qu'elle se transforme en question politique à partir de la Révolution française et donc a fortiori du 19e siècle revêt plusieurs visages. L'un de ces visages, c'est bien sûr la corruption électorale. On invente au XIXe siècle un gouvernement qui repose sur l'élection, avec un corps électoral qui s'élargit peu à peu. Mais on découvre aussi, du même coup, des procédés frauduleux d'obtention des suffrages et aussi des procédés de financement des associations qui sont légalisées tard en France. Les partis politiques ne sont légalisés qu'en 1901. Donc il y a dans ces affaires de corruption qui préoccupent l'actualité cette dimension qui renvoie à une question structurante, laquelle est la question de l'élection légitime, de l'élection sincère. C'est le cas dans cette affaire libyenne qui a aussi d'autres aspects.
Je voudrais que l'on plonge maintenant dans votre livre, dans l'histoire de la corruption que vous dessinez, en commençant tout simplement par le début, tenter de définir ce qu'est la corruption. Et on va pour cela commencer avec les propos tenus par le philosophe Thierry Ménissier. Il nous donne justement la définition de la corruption qu'il entrevoit.
La corruption est un usage social qui remplit une fonction latente. C'est de faire parvenir au pouvoir des élites sociales qui ne peuvent pas y parvenir. Des bourgeois, drapiers, ils faisaient des draps, devenus enrichis, devenus banquiers, deviennent grand-ducs. Et donc, en fait, voyez comment la corruption remplit cette fonction latente de permettre à une société dont les cadres sont très vite étroits, sont fixes, figés, parallèlement à l'évolution du droit, mais plus vite que l'évolution du droit, donc à transformer la société. Donc c'est tout à fait intéressant de voir que le talent des individus, leur puissante capacité d'ambition et de transformation de la réalité grâce à cette ambition, agit sur le réel au point d'obtenir progressivement sur la longue durée certains avantages.
Est-ce que vous êtes d'accord, Frédéric Monnier, avec cette définition de la corruption et quelle est la vôtre ?
Dans les propos de Thierry Ménissier, qui sont toujours très stimulants, il y a des choses qui me semblent profondément justes, je vais y revenir dans un instant. Et il y a une perspective qui est celle du philosophe, qui n'est pas tout à fait la perspective de l'historien que je suis. Pour des raisons de clarté hein, dans l'analyse des processus historiques, il me semble que, comme d'autres collègues l'ont fait, on doit distinguer les pratiques, qui sont des pratiques de pouvoir, d'intérêt, vénales, en général secrètes ou discrètes, et d'un autre côté, les débats publics que les pratiques, une fois révélées, une fois connues, suscitent. Ce sont des débats qui sont intéressants parce qu'ils donnent à voir des valeurs, des systèmes de valeurs publiques, des idées du bon gouvernement, de la probité, etc. Et que la confrontation entre ces pratiques et ces débats provoque des réformes. C'est constant depuis la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. La lutte contre la corruption accouche de réformes, d'institutions spécialisées, on en a en France, au nom de la transparence, au nom de l'efficacité dans la répression, le parquet national financier dont vous parliez à l'instant. Ce qui lie la corruption à ce que j'appellerais par facilité la modernité ou l'accélération du temps social, c'est, et Thierry Ménissier a raison de le dire, l'idée que la corruption fait gagner du temps. Je vais en donner trois exemples, si vous m'en laissez
le
temps. Merci. Le premier exemple qui est très connu des chercheurs, c'est l'obtention de distinctions honorifiques. Donc, d'une forme de reconnaissance symbolique, politique aussi, sociale, qui permet ensuite à une telle ou telle personne de se présenter à la députation, de se présenter à une mairie, de faire partie d'un conseil d'administration, etc. Dans le cas de la corruption, il s'agit d'un moyen, dès la fin du 19e siècle, d'acheter en quelque sorte plus vite la distinction honorifique, plus vite que la moyenne des autres postulants à, par exemple, une Légion d'honneur. Donc là, on saisit très clairement que, en un sens, la corruption permet l'accession rapide à une reconnaissance qui, autrement, mettrait beaucoup plus de temps à arriver. C'est pas propre à la France, hein. Un deuxième exemple, si vous me le permettez, la corruption est liée aussi dans l'esprit des Français depuis les années 1780 à ce qu'ils appellent alors l'agiotage, qui est une forme de spéculation boursière, à l'époque essentiellement sur les emprunts d'État, donc sur la rente, dans une période de très forte inflation. Ce qui semble particulièrement scandaleux dans ce qu'on appelle l'agiotage, qui est pensé comme une forme de corruption, ce sont les ventes anticipées en quelque sorte, donc les ventes à découvert ou à terme, et c'est sur ce type de vente que se concentrent la plupart des critiques en France jusque dans les années 1880. En fait, le fait d'acheter sans avoir encore l'argent et d'acheter finalement des promesses. Là aussi, c'est un accélérateur, c'est perçu comme un accélérateur du temps économique, en l'occurrence du temps financier, et c'est perçu comme immoral, corrompu. Donc, En cela, je suis d'accord avec Thierry Ménissier, oui.
Qu'est-ce qui s'est joué en quelques mots, Frédéric Monnier, car j'ai beaucoup, beaucoup de questions sur la corruption à vous soumettre. Qu'est-ce qui s'est joué, selon vous, au milieu du XVIIIe siècle pour que la corruption devienne, dans le fond, un véritable sujet public qui puisse sortir cette thématique-là du champ religieux ?
Ce qui s'est joué... Nous continuons notre conversation en compagnie de Thierry Ménissier. C'est d'abord la redécouverte du républicanisme ancien, ou classique, comme on voudra. Cette redécouverte via les considérations sur l'histoire de Rome, du temps de sa vertu pendant la République romaine jusqu'au temps de sa décadence sous l'Empire. Le fait que cette considération trouve un écho nouveau dans les élites des Lumières, pour le dire ainsi. En France, l'auteur le plus connu en ce sens, bien sûr, c'est Montesquieu. Mais il ne faut pas masquer le fait que cette redécouverte ait eu des échos aussi profonds, sinon plus profond encore, en Grande-Bretagne et surtout aux États-Unis, dans ces 13 colonies s'apprêtent à conquérir leur indépendance et à se doter d'une constitution. Donc cette redécouverte du républicanisme ancien, cette relecture du républicanisme ancien, elle va de pair avec un autre phénomène. D'abord, un changement des sensibilités religieuses. Je pense, pour la France, au jansénisme, dont on a beaucoup dit, avec raison, qu'il était finalement une des sources du patriotisme français. Je pense qu'il y a également l'écho d'autres sensibilités, sensibilité à la vertu, l'idée que l'éducation, d'une certaine manière, pourrait remédier à, peut-être pas à la corruption native et originelle de l'homme, mais en tout cas à sa corruption sociale. Et en disant cela, je pense bien sûr à Rousseau.
Je fais un bond dans l'histoire, mais pourquoi sous la Troisième République, cette question de la corruption devient plus centrale qu'à nul autre moment? Pourquoi cette question de la corruption, j'allais dire même, devient politique en tant que telle et pas seulement morale?
Alors, pour vous répondre de manière peut-être trop schématique, c'est vrai, l'historiographie, les recherches ont parfaitement documenté quelque chose qui semblait inextricablement attaché à la Troisième République, à savoir les affaires politico-financières et les scandales de corruption. Pour autant, c'est un peu ici l'arbre qui masque la forêt, puisqu'il y a eu, avant la Troisième République, d'autres périodes où cette question a été centrale, et qu'il y a, après la Troisième République, d'autres moments, le nôtre en particulier, où cette question redevient cruciale. Avant la Troisième République, le moment fondateur dans l'histoire de la corruption politique, ou dans la politisation de la question de la corruption, qui est extrêmement ancienne, c'est bien sûr la Révolution française. Le seul remède à la corruption, c'est la vertu. Et on sait que, aux yeux de Robespierre et d'un certain nombre, dans le contexte, la vertu ne peut s'exercer sans terreur. Robespierre reste l'incorruptible, quoi que l'on en dise, en bien ou en mal. Et son ombre plane quand même très longtemps sur la scène politique française. Le deuxième moment important, je crois, est celui de la monarchie de Juillet, entre 1830 et 1848. C'est au-delà des caricatures par Daumier du roi Louis-Philippe en poire. C'est l'idée que le roi Louis-Philippe est finalement un homme d'argent, ou en tout cas qu'il est entouré d'hommes d'argent. Bon, donc il y a eu, avant la Troisième République, des moments clés dans cette expérience historique que les Français ont eu de la corruption. Et depuis, depuis les années 1980, on vit à nouveau un de ces moments, même si notre compréhension de la corruption, même si les réponses que nous lui apportons ont changé, bien sûr.
Il faut dire un mot également des années 1960, 70, 80, lorsque la corruption se transforme moins en pratique qu'obsession publique. La tension se déplace, hein, écrivez-vous, d'un problème moral interne au monde politique. Elle devient fondamentalement, dans cette seconde moitié du XXe siècle, un enjeu judiciaire et plus encore médiatique. Qu'est-ce qui, justement, opère ce basculement? Comment l'expliquer?
C'est un mouvement relativement complexe qui a plusieurs facettes. Un mouvement qui concerne d'abord les acteurs de ce que l'on nomme aujourd'hui l'anticorruption. Et ces acteurs, ce sont les policiers et les magistrats au premier chef. C'est à partir des années 1980-1990 que l'on voit certains de ces acteurs, je pense ici à un policier, Godinot, je pense à un juge en particulier, le juge Thierry Jean-Pierre, qui protestent contre leur hiérarchie, quitte à se faire révoquer, et pour certains, préfèrent passer en politique, c'est le cas du juge Thierry Jean-Pierre, mais d'autres juges par la suite, spécialisés dans la lutte contre la corruption, ont fait ce mouvement de passage vers la politique, la juge Eva Joly par exemple. Donc ce mouvement de rupture qui explique que la corruption devient une affaire judiciaire, elle s'explique d'abord, elle renvoie d'abord à un changement de comportement, d'habitude, de pratique de la part des fonctionnaires les plus directement aux prises avec ce qui se passe. Et puis elle renvoie aussi à un changement d'attitude dans votre profession.
Celle de journaliste.
Voilà. Et notamment après le scandale du Watergate, la transformation, ou en tout cas peut-être même à la genèse, d'une forme nouvelle de journalisme d'investigation. Il existait bien sûr depuis la fin du 19e siècle, par exemple aux États-Unis ou en France, un journalisme de révélation, un journalisme de dénonciation. Et en France, il existait un monde de pamphlétaires qui avait un rôle dominant dans la profession. À partir des années 1970, et plus encore des années 1980, c'est un autre journalisme qui se manifeste, un processus de transformation de votre métier. Et là, je pense que un média comme Mediapart, aujourd'hui, on est un point d'aboutissement, si vous voulez.
Expliquez-nous, il nous reste 45 secondes à peine, pourquoi l'année 2011 constitue, selon vous, un point de bascule?
Alors, ce processus, il existait, mais il était relativement difficile à mettre en évidence, ou du moins... disons que les Français n'en avaient pas, je pense, pris pleinement conscience.
Et c'est l'affaire Woerth-Bettencourt qui a tout changé?
Je pense que l'affaire Woerth-Bettencourt, sans tout changer, a constituait un moment de choc collectif ou de prise de conscience collective, alors même que personne ne pouvait imaginer, et Nicolas Sarkozy encore moins que quiconque, ce qui allait advenir par la suite. Mais c'est l'histoire est ainsi faite. On l'a fait sans savoir ce qui adviendra, bien sûr.
Merci beaucoup Frédéric Monnier. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Un pouvoir malhonnête, la corruption publique en France, 18e-20e siècle, qui a paru en septembre dernier aux éditions Champvallon. Merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Je veux parler de Rodi Eken, Roxane Poulain, Bertie Bourdon. À la réalisation, c'était Léa Racine et Timothée Hubert ce soir à la technique.